Et nous parlons donc pour la quatrième, mais pas la dernière fois, nous l'espérons, du parc naturel régional de la vallée du Trien de l'Arpille à la Cime de l'Est, pour son petit nom. Nous aurons consacré quatre séquences d'émissions à ce projet, quatre séquences qui correspondent aux quatre axes de développement de ce projet. Il y a eu dans le désordre biodiversité et paysage, sensibilisation et éducation et gouvernance et communication. Chacun de ces axes comporte une série de projets qui sont ou seront développés. Alors on citera par exemple des sites construits d'importance nationale, une grénothèque, les murs en pierre sèche, des sorties pédagogiques, des spectacles itinérants, un site internet, une stratégie de communication ou encore l'observatoire de la faune. Oui, il y a tout un tas de choses qui sont préparées dans le cadre de ce parc naturel régional. Et ce soir, le dernier axe donc, c'est économie durable avec nous. Pour en parler, une routinière presque de cette émission, Éline Premont, qui est chef de projet. Salut Éline, ça va ?
Très bien, merci. Et toi ?
Ça va bien, ouais, merci. Même si c'est la dernière, on est un petit peu triste, mais un bel été se présage. Et puis, on a Sébastien Rapa, qui est président de la commission donc de cette axe, finalement, économie durable. Salut Sébastien.
Salut.
L'ambiance est bonne aussi de ton côté ?
Très, très bonne.
Pas de crainte de parler dans le micro, ça va ?
Non, ça va.
Ouais, déjà un habitué, on t'a entendu sur d'autres chaînes que je dirais pas concurrentes, mais qui sont un peu plus haut dans le centre du Valais. On va parler de ce parc, donc l'axe, on l'a dit, regroupe des projets qui sont eux-mêmes regroupés dans des thématiques. Non, ne dites pas que c'est compliqué. On commence avec tourisme, détente et loisirs durables. Éline, alors le premier projet, passeport découverte. La particularité, c'est que, histoire de simplifier la vie, c'est divisé en deux sous-projets complémentaires.
Exactement, donc l'un des deux sous-projets, c'est une web app qui donnera accès à une chasse au trésor en ligne. Donc concrètement, chaque utilisateur aura des logins et pourra bénéficier donc d'une carte avec des points d'intérêt géolocalisés. L'idée, c'est de se rendre sur place, de répondre à des questions, donc de résoudre des énigmes en regardant le paysage, en observant qu'est-ce qui se passe autour de nous. L'idée, c'est de sensibiliser. Que ça soit du patrimoine, la faune ou la flore, on cherche ici vraiment à donner de l'information sur le terrain. Et puis, une fois qu'on a répondu à l'énigme, on bénéficie donc d'une réussite. Et puis, on peut dire que le point d'intérêt est validé. Il y en aura 28 sur l'ensemble du territoire du parc naturel régional.
Un grand jeu de pistes à vivre avec son téléphone, c'est, ça pourrait être fait en une fois ou c'est quelque chose qui sera sur plusieurs visites ?
Alors, ça sera effectivement plutôt, on peut carrément dire, sur 28 visites, ouais. Puisque les points d'intérêt sont espacés. Après, quelques points d'intérêt peuvent être récoltés le même jour si vous courez ou marchez vite.
Ouais, alors l'important, c'est de bien profiter de ce parc naturel régional. Autre sous-projet, finalement, c'est en parallèle. Hein, il y aura un support papier comme un passeport qui pourrait être distribué aux citoyennes et aux citoyens.
Exactement, donc on a souhaité aussi avoir ce passeport qui est en format papier, qui sera distribué à l'ensemble des ménages du parc naturel régional. Et puis donc, grâce à ce passeport, on aura une liste de 7 points d'intérêt et ça donnera des accès, un avantage particulier pour pouvoir accéder par exemple à la grotte aux fées ou encore aux eaux des Marécottes ou aller tester la tyrolienne à Émosson. L'idée, c'est d'avoir cet avantage financier et puis de nouveau de collecter des points pour remplir l'ensemble des challenges liés à ce passeport découverte.
On pourra gagner des choses.
Exactement. Donc, à la fin du projet, donc on mise sur l'automne 2024. Il y aura tout un tirage au sort. Et puis, donc, selon les points qui seront récoltés, on pourra offrir des magnifiques lots en lien, bien sûr, avec les produits du terroir ou des expériences à vivre dans le parc.
Voilà, et puis il faut maintenir un peu le suspense, on va pas dire ce que sont ces prix. De toute façon, je suis pas sûr que c'est encore bien décidé. Hein. C'est un projet vivant, ce parc, ça évolue au fur et à mesure. Sébastien, revenons un petit peu aux fondamentaux. Finalement, pour qu'on sache qu'on est dans un parc naturel régional, il faut être au courant qu'on y est entré, hein, qu'on est à l'intérieur. Donc le projet dont vous allez nous parler, c'est présentation du parc et porte d'entrée.
Voilà un projet qui veut montrer aux citoyens les informations du parc ou aux visiteurs qu'ils sont dans un parc et ce qu'ils peuvent trouver. Ce projet, il verra le jour après la votation populaire de l'année prochaine. Et pour l'instant, le concept reste un petit peu à définir, mais le but, c'est qu'on ait quelque chose d'itinérant, qui puisse être de temps en temps dans un endroit ou dans un autre, qui montre aux visiteurs aux touristes de la région, au restaurant du Saint-Bernard, sur l'axe de Chamonix, dans la région de Martigny ou autre, qu'ils arrivent dans un parc naturel régional et qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver, qu'est-ce qu'ils peuvent y faire et quelles sont les spécificités d'un tel endroit.
On en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à l'Office du tourisme de Saint-Maurice. On aura deux représentantes après. Mais là aussi, un rôle déjà qui est joué.
Oui, l'Office du tourisme de Saint-Maurice est un partenaire du parc. Anne fait partie de la commission qu'on représente ce soir. Et puis, avec leurs nouveaux locaux, ils ont mis à disposition un espace pour faire de la promotion, pour parler du parc, pour mettre à disposition des flyers et autres prospectus concernant le parc.
Voilà, avec les actus, des événements, les projets, ces différentes choses. Et c'est vrai, hein, c'est bien d'en parler de ce parc, c'est ce qu'on fait aussi parce qu'il y aura une votation populaire en 2024. On va pas refaire toute l'histoire, mais c'est intéressant. Il faut intéresser les gens, il faut en parler puisque finalement, c'est les populations qui devront donner leur accord pour que ce parc devienne réalité. On poursuit notre exploration avec Eline. Le projet qui parle d'une thématique d'actualité, on peut le dire, c'est le tourisme responsable, la valorisation régionale. Qu'est-ce que c'est ?
Donc, il faut se rendre compte que dans notre territoire du parc naturel régional, on a la chance de compter trois destinations touristiques. Donc, Saint-Maurice Tourisme, Vallée du Trien Tourisme et puis Martigny et Région qui englobent le tout. On profite donc d'une visibilité aussi à travers le réseau des parcs, Vallée Valise Promotion et puis Suisse Tourisme qui mettent un accent fort ces derniers temps et puis ces futures années sur le loisir et le tourisme durable à travers Sustainable entre autres, des produits qui sont plutôt orientés responsables, etc. Donc on profite de cette visibilité et puis ensemble on collabore avec les offices du tourisme pour monter des produits qu'ils soient touristiques ou alors aussi accessibles, bien sûr, pour les citoyens. Hein. Quand on parle de produits touristiques au sein du parc naturel régional, on pense là à des offres combinées, des packages qui peuvent comprendre, par exemple, une activité avec le transport, comme se rendre aux eaux des Maricottes avec le Mont Blanc Express, ou alors combiner la visite du château avec la grotte aux fées. Donc, on essaye de réunir toutes ces informations et puis elles sont déjà, pour la plupart, disponibles sur notre site internet. Donc, ces produits sont représentés sur notre site et c'est amené à évoluer ces prochains temps encore.
C'est quelque chose de qui, ben, le parc régional peut amener une bonne synergie. Il y a déjà des collaborations qui existent, vous l'avez évoqué, mais là, ça donne vraiment un intérêt commun, peut-être différentes destinations touristiques qui... Peut-être par le passé, ont eu un peu tendance à travailler un peu toute seule. Là, c'est vraiment l'idée de regrouper, peut-être un peu comme on a l'exemple du côté des Portes du Soleil dans la vallée d'Illier.
Tout à fait. Donc là, avec ces trois destinations qui se complètent autant l'une que l'autre, c'est vraiment intéressant de travailler ensemble et puis de lier finalement peut-être le patrimoine de Saint-Maurice avec la nature sur les hauteurs.
L'union fait la force. C'est ça. Autre thématique donc, de cette axe économie durable, on arrive, c'est une thématique consacrée aux produits du terroir et à l'économie de proximité. Produits du terroir, c'est un projet en soi. Comment est-ce qu'on procède pour travailler autour de cette notion, Eline, des produits du terroir ?
Tout d'abord, on a commencé par établir une liste. On a vraiment un territoire qui est riche donc, de producteurs, d'artisans, de porteurs de traditions. On entend par là les groupes folkloriques, les patoisans, etc. C'était important pour nous d'avoir une vue d'ensemble et puis de pouvoir, créer donc, cette liste et avoir ce stock un petit peu à disposition de producteurs. Donc, on a remarqué que c'est énorme tout ce qu'on a et puis on a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler correctement.
Alors là, on a toute une série de producteurs, j'imagine qu'on a cette liste, et puis après, il s'agit un peu de trouver des choses en commun pour créer quelque chose. Alors est-ce qu'on a un peu des exemples de choses qui sont faites ou qu'on pourrait faire à ce niveau-là ?
On pourrait imaginer effectivement une identité graphique ou alors des paniers du terroir qui seraient à disposition dans plusieurs points de vente stratégiques et puis disposés géographiquement sur le territoire. Donc les idées... peuvent être variés. On recherche aujourd'hui un bon compromis et puis un besoin qui est pour les producteurs et qui doit être mis en place.
Présenter le territoire, présenter les produits, l'artisanat, le patrimoine. Il y a déjà eu des choses qui ont été faites, qui ont été présentées. Si je suis bien renseigné, à Berne.
Exactement, on est allé pour donc deux années consécutives, l'année dernière et cette année en mai, sur la place fédérale. Donc c'est le marché des parcs suisses qui réunit l'ensemble de tous les parcs de la Suisse. On est là donc clairement pour présenter nos produits. Donc, c'est aussi une excellente carte de visite pour l'aspect touristique, hein, pour promouvoir notre territoire sur la région plutôt suisse-allemande. Et puis, donc, on a pu profiter de présenter une maquette du Moulin Fine, par exemple. On a fait déguster des produits du terroir avec la bière de l'abbaye de Saint-Maurice, aussi des vins du vignoble de Plan-Cerisier. C'était très intéressant aussi d'avoir un souffleur de verre qui nous faisait des démonstrations. Et puis, les participants ont même pu s'initier à la poterie.
Le soufflage de verre, il y a de l'artisanat dans ce domaine-là, dans la région, je ne savais pas. Hein.
Tout à fait, un souffleur de verre qui habite et qui a son atelier à Trien.
Alors, le marché des parcs suisses, on s'arrête deux secondes là-dessus, on a un petit peu de temps. Tous les parcs suisses sont là et on s'installe. Donc, c'est des grands stands et le public peut se... Enfin, grand stand ou petit stand, je ne sais pas, le public se promène et c'est sur la place fédérale, c'est comme ça.
Oui, exactement. Le public se promène, il y a des produits à déguster, des brochures à retirer, aussi beaucoup d'informations. Donc, chaque parc présente ses produits, mais que ce soit son programme annuel d'excursion ou alors des produits labellisés. Donc, c'est très intéressant.
On peut profiter, j'imagine, aussi d'échanger un petit peu avec des autres destinations, trouver des idées en commun, ce genre de choses.
Bien sûr. Pour nous, c'est l'occasion de réseauter et puis d'échanger avec ce réseau des parcs et puis tous ces autres parcs. Donc, tous les parcs ont passé par la phase de candidature. Donc, on bénéficie de cette expérience et puis on en retire des bonnes choses.
Alors, il y a aussi un aspect économique qui peut être abordé, le projet Communauté de valeur. Donc on le dit, hein, ça n'a pas encore commencé. Je le disais, c'est vivant ce projet de parc. Donc, il y a des choses qui ont commencé, qui vont commencer. On peut l'évoquer. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet Communauté de valeur ?
Petite précision, c'est vrai qu'il y a certains projets qui n'ont pas encore débuté puisque on a comme... deadline, la votation populaire de juin 2024, et il y a des choses qui ne nécessitent pas d'être faites avant pour optimiser les ressources et puis les coûts. Donc clairement, ce projet Communauté de valeur, il verra le jour après la votation populaire, quand on sera sûr ou pas de poursuivre l'aventure. Et puis l'idée, c'est de rassembler les producteurs qui répondent à nos valeurs, donc de manière éthique et responsable, et puis de présenter leurs produits ou leur entreprise, ça peut être aussi large, hein, sur nos différents supports de communication, et comme ça, ils peuvent bénéficier d'une visibilité plus large.
On parle du parc naturel régional de la vallée du Trien. On était sur un sujet intéressant. Rando gourmet, Éline Premont. Là, c'est l'idée plutôt de soutenir des choses qui existent déjà, hein, qui se font au niveau local et assez bien.
Tout à fait. Donc, les associations n'ont pas attendu le parc naturel régional pour faire vivre leur commune et puis le tissu associatif. Donc, c'est vrai qu'ici, on arrive plutôt avec une plus-value. On souhaite soutenir ces associations. Très souvent, ce sont des comités bénévoles qui œuvrent pour l'organisation. Donc, ici, on apporte un soutien, que ce soit financier ou alors administratif pour la prise en compte des inscriptions, par exemple, l'engagement de personnel, par exemple, des accompagnateurs ou bien des guides du patrimoine qui pourrait donner des informations sur l'itinéraire que fait la balade gourmande. Voilà des exemples.
Un rôle de facilitateur, finalement. C'est vrai qu'il y a des choses qui se font. À Saint-Maurice, on a notre balade gourmande, c'est chouette, mais avec le parc naturel régional, on a le moyen de pimper un peu, si j'ose dire, en amenant des nouvelles choses, en amenant un peu de professionnalisme et puis en accompagnant. C'est vraiment ça l'idée. Hein.
Exactement. Et puis, bien sûr que les organisateurs bénéficient de la liste de tous les producteurs que je mentionnais tout à l'heure pour pouvoir créer un menu parc naturel régional avec des produits qui viennent essentiellement du territoire.
Sébastien, discret depuis quelques questions, mais toujours là. On va passer à la thématique suivante. C'est le troisième axe, la mobilité durable. On est en plein dans un sujet d'actualité. On va parler du projet numéro 19 qui s'appelle Pass Mobilité. Si on résiste à l'orage.
Oui, alors, je suis toujours là, malgré la tempête. Le but, c'est, comme tu l'as dit, c'est d'être un peu dans l'air du temps, c'est de faire voyager les gens en transport public à l'intérieur du parc, pour que les citoyens de Saint-Maurice qui vont faire une randonnée à Trien ou qui vont participer à un événement du parc à Trien, ils puissent prendre les transports publics à un prix préférentiel. On va mettre en place tout bientôt une carte journalière que les citoyens du parc et autres visiteurs pourront payer 5 francs Et pour ces 5 francs, ils pourront voyager toute la journée sur toutes les lignes de transport du territoire. Voilà, ça permettra de lier avec le projet dont Méline a parlé tout à l'heure, le passeport découverte, ouais. D'aller à différents endroits, participer aux activités, remplir et faire des stempels sur le calepin.
Tout ça pour pas cher en train, sauf s'il pleut, comme maintenant. On restera dans le wagon et puis on ira jusqu'à la gare suivante. En attendant que l'orage se passe, Eline, la mobilité durable, c'est une offre de transport, mais pas seulement. Les collectivités publiques aussi, elles doivent s'investir là-dedans, réfléchir à ce thème. Et c'est le but justement du projet dont vous allez nous parler, le projet mobilité durable.
Exactement, donc toutes les communes du parc, hein, que ce soit en plaine ou en montagne, doivent aborder cette thématique de la mobilité. Certains ont des soucis plutôt liés au parking sauvage, d'autres à la gestion du flux avec des périodes touristiques, d'autres c'est une desserte limitée de transport public ou un accès pour les piétons. Donc effectivement, toutes nos communes doivent se pencher sur ce sujet. C'est pour ça qu'on souhaite faire un concept de mobilité durable.
Ouais, parce que toutes les communes ne sont pas de très grande taille. Alors parfois, c'est les plus grandes communes, c'est peut-être plus facile de travailler sur des concepts et d'engager des bureaux pour élaborer des choses assez complexes. Pour les petites communes, c'est plus compliqué. Là, vous facilitez la vie de tout le monde avec ce parc. L'idée, c'est de proposer un accompagnement pour gérer justement cette thématique-là de la mobilité.
Exactement. Donc, dans le cadre de ce projet, on a donné un mandat à une entreprise externe qui nous réalise ce concept mobilité durable. On ne cherche pas à avoir un document d'une centaine de pages qui n'est pas utilisé, mais surtout un carnet de mesures qui sera à disposition ensuite des communes. Et dans le prochain processus d'appel à projet, on pourra justement déposer des projets qui permettront d'être réalisés en phase 2025-2035, si ça se poursuit. Et puis, donc, pour ce projet de concept mobilité durable, on avance par phase, donc avec un diagnostic qui a déjà été fait ce printemps. Donc, vous avez été amené à remplir un sondage sur vos habitudes de mobilité de manière digitale. On va partir sur la stratégie et le volet opérationnel. C'est un gros travail, ce concept mobilité durable. Ça va clairement durer jusqu'à juin 2024.
Bon, c'est de toute façon une thématique en développement et puis intéressante parce que ça implique tout un tas d'acteurs et tout un tas de choses. Sébastien, on parlait tout à l'heure de faire comprendre à chacun qu'il est sur le territoire du parc. Le projet dont vous allez nous parler, il est lié aussi un petit peu à cet esprit. Enfin, c'est ce que j'ai déduit en tout cas. Ça s'appelle Signalétique du parc.
Oui, c'est un projet qui reste un petit peu à définir aussi, à délimiter dans l'espace et dans le temps. Mais le but, c'est d'avoir une signalétique claire sur le parc et un plus ou moins uniforme et coordonné pour quand on informe les citoyens, les randonneurs, les visiteurs du parc, s'il y a des panneaux didactiques qui sont un peu coordonnés, qu'il n'y ait pas un immense panneau bleu à côté d'un petit panneau rouge et puis avec un panneau vert allongé à côté, ça ferait... histoire d'avoir un certain esthétisme.
Ah, ça ferait des belles couleurs, mais c'est...
Ça ferait des belles couleurs, hein. J'ai pris les bons exemples, mais...
on gagne pas en compréhension.
Mais en termes d'esthétisme, mais de paysage, ça serait plus intéressant d'avoir quelque chose de coordonné. Et c'est un peu l'objectif de ce projet.
Avec aussi la même idée dans la communication.
Oui, d'avoir quelque chose d'uniforme pour que les gens qui visitent les 7 communes du parc, ils soient...
Ouais, alors je pense que c'est peut-être la communication,
à quel niveau ?
Publicité ou ce genre de choses.
Ah, de toute façon, en termes de ce qui est déjà le cas maintenant, le journal du parc ou les différents flyers ont une ligne directrice au niveau de la signalétique de la signalétique, c'est pas ça le terme correct, mais il y a déjà quelque chose de très coordonné et de très uniforme.
Thématique qui va s'intéresser maintenant aux ressources naturelles. Alors l'eau qui est tombée du ciel à l'instant représente un enjeu majeur, ça c'est sûr. On l'a vécu l'été dernier avec des sécheresses assez problématiques potentiellement. La gestion de l'eau, c'est aussi, Eline, un projet en soi.
Tout comme la mobilité, effectivement, chaque commune est amenée à avoir des réflexions à propos de sa gestion en eau, qu'elle soit eau potable, eau d'irrigation, aussi des enjeux liés à l'hydroélectricité par exemple. Donc, à nouveau, on offre des outils aux communes pour pouvoir aborder cette thématique.
On espère qu'on en aura toujours de l'eau. Il y a un mandat, donc c'est assez compliqué. Là aussi, c'est technique, réaliser un inventaire du système hydrique, définir les enjeux.
Exactement, c'est technique. Donc, il y a un gros travail qui est fait par un consortium, bien évidemment. Donc là, on a donné un mandat à une entreprise externe qui se chargera de faire cet inventaire. On passe de nouveau par plusieurs phases. L'idée, c'est de pouvoir dire ces données existent, ces données n'existent pas, on peut les exploiter ou pas. Donc, il y a un gros travail qui est à faire par rapport à ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Chaque commune ne sait pas exactement qu'est-ce qui en retombe par rapport à cette ressource en eau.
Et puis, un projet d'exposition un peu confidentiel, mais on peut quand même dire un petit peu quelque chose.
Oui, donc là, c'est l'un des seuls projets qui est localisé à uniquement un endroit. Donc, on se trouvera à Émosson.
Celui-là est l'Observatoire de la faune.
L'Observatoire de la faune aussi. Deux voilà. Projets, exact. Donc, ce projet d'exposition à cours d'eau, ce sera à Émosson. Et puis, c'est en collaboration avec un consortium de partenaires qui exploitent la région d'Émosson, entre autres avec Alpic. Et puis, on va travailler sur une infrastructure d'accueil proche du barrage.
Attention, j'en appelle à tous les amateurs de bons jeux de mots. Sébastien, le projet, là, le concept suivant, autour, donc O qui s'écrit E-A-U, autour, voilà, vous avez compris. Un tour autour de l'eau, c'est ça?
Exactement, une randonnée, des randonnées sonores qui sont en cours de réalisation. Il y a des randonnées qui vont être choisies dans chaque commune, qui ont été choisies, avec des intervenants qui seront enregistrés prochainement par Agone Radio, pour des podcasts que les utilisateurs, visiteurs pourront écouter sur le terrain directement avec leur téléphone.
Alors l'avantage, c'est que vous ne m'apprenez pas quelque chose. Je savais qu'on allait enregistrer des podcasts. On pourra les écouter où, comment, ces podcasts?
On pourra les écouter au fil des randonnées proposées. Le principe, c'était en fait de réimaginer, de réinventer la balade didactique, mais sans les panneaux à lire qui occupent le paysage. C'est avec des témoignages que vous enregistrez, que tu enregistreras prochainement.
C'est vrai.
Des témoignages de personnes qui connaissent des éléments liés à l'eau, des barragistes, des responsables de l'eau potable ou des dangers naturels dans les différentes communes. Et ces podcasts seront disponibles sur le téléphone et correspondront à des lieux précis ou plus ou moins précis sur le long des randonnées.
D'ailleurs, est-ce que vous cherchez encore des gens qui pourraient un petit peu parler de ça? Si des auditeurs se disent « Ah, mais moi, j'ai une sacrée histoire, une sacrée anecdote autour de l'eau dans ma commune, y a possibilité de participer ou vous avez déjà trouvé tout ce qu'il vous faut ?»
Alors, la possibilité, il y a toujours. Donc, si effectivement, il y a un passé familial ou un témoignage qui paraît intéressant à nous transmettre, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, c'est volontiers que vous serez intégré à cette démarche de randonnée autour qui est un projet très participatif.
On passera par un comité de sélection et d'études de l'histoire et de sa véracité. En attendant, autre enjeu, l'énergie, Éline. Et, oui, l'énergie, c'est ça.
Donc, l'un des projets liés à l'énergie, c'est Région Énergie. Donc, on souhaite soutenir administrativement les communes qui souhaitent aboutir à un label Région Énergie. Et puis, donc, ça sert vraiment à favoriser les collaborations intercommunales pour que les habitants, les entreprises et puis les communes aient des objectifs communs pour la gestion de l'énergie de manière générale.
Travailler ensemble, hein, c'est peut-être un... des mots-clés qui tournent autour de ce parc naturel régional, favoriser la collaboration, la participation, la mise en commun de beaucoup de choses. On arrive à la fin de ce cycle de présentation des quatre axes, une quarantaine de projets, peut-être même un peu plus. Combien il y en a? 41. Ah, j'ai bien étudié. 41 sujets autour de ce parc naturel régional de la vallée du Trien qui va de l'Arpie à la cime de l'Est, on m'a dit de le répéter. Éline Premont, Sébastien Rapa, merci d'être venu nous voir.
Merci à vous pour l'accueil. Juste, je profite pour les gourmands, d'annoncer que la prochaine balade gourmande aura lieu le 16 juillet du côté de Finhaut. Donc, n'hésitez pas à venir vous informer sur notre site internet.
16 juillet à Finhaut, c'est tout bientôt une balade gourmande. En attendant, on doit le dire, le parc naturel régional, il se construit avec les citoyens, il se construit pour les citoyens, les sociétés, les acteurs, tout le monde fait vivre ce territoire. En tant qu'individu ou en tant que société, vous pouvez soutenir ce parc naturel régional de la Vallée du Trien devant membres de l'association. Une cotisation absolument ridicule pour les personnes physiques et puis pour les sociétés, c'est pas tellement plus cher. Toutes les infos se trouvent sur le site internet www.parc-valleedutrien.ch. On peut aussi s'abonner au canal d'info WhatsApp. Il suffit d'envoyer le message « Je m'inscris », c'est facile, 079-867-44-49. On le mettra sur notre site internet, j'imagine, je m'avance peut-être, mais on le mettra, les infos parc-valleedutrien.ch.